It's Morning Edition from NPR News.
Nancy Tinsan in the house.
France Inter, le 18-20.
Quand le sport est aussi une proclamation d'acte politique, les sportifs noirs américains se sont fait entendre depuis la mort de George Floyd, à qui l'Amérique rend un dernier hommage aujourd'hui. Noirs américains pas seulement, bien sûr, mais on a voulu s'attacher à ce sujet parce que l'attitude des sportifs noirs nous renvoie à l'histoire, celle de leur combat, celle des droits civiques. Vous verrez que ça n'a pas toujours été évident, parfois même ambigu. Et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est au Mexique quand l'épidémie ralentit chez nous, elle accélère ailleurs. Le pays désormais le plus touché par le Covid en Amérique latine, c'est le Mexique. Et puis le journal sonore ce soir est celui de Véro. Elle est polonaise, elle est à Cracovie. Sous les radars, comme tous les mardis, vous verrez qu'on ne téléphone plus dans la rue dans une ville du Japon et qu'un robot remplace les journalistes au Royaume-Uni. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Et si l'économie mondiale repartait plus tôt que prévu, on verra ça ensemble. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Nicolas Martin-Breteau.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialisé dans les États-Unis, l'histoire sociale du sport notamment. Vous avez à paraître dans les jours qui viennent un livre qui s'appelle « Corps politique » aux éditions de l'EHESS. On va se retrouver dans un tout petit instant. Je voudrais saluer Alexis Aginsa juste avant. Bonsoir Monsieur Aginsa.
Bonsoir.
Vous êtes Bonsoir, vous êtes basketteur, vous jouez en NBA, vous jouez à Charlotte, en Caroline du Nord, c'est là que vous êtes. C'est avec vous que j'ai envie de commencer, Alexis Aginsa. Je voudrais que vous nous disiez comment vous avez senti, vous, que les grands champions dont vous êtes, les grands champions américains, de toute façon, ne pouvaient pas ne pas se faire entendre cette fois, ne pas prendre position. Il s'est passé quelque chose dans le monde du sport autour du cas de George Floyd.
Oui, c'est passé quelque chose au niveau du sport parce que George Floyd était en fait un très bon ami à un joueur NBA. Son ami s'appelle Stephen Jackson. Donc moi, j'ai joué avec lui à Charlotte justement pendant une année. Donc je connais très bien la personne. Je connaissais pas George Floyd. Voilà, on est une grosse fraternité et quand ça touche l'un d'entre nous, on est tous solidaires.
Est-ce que
donc, je trouve ça normal.
Vous avez participé, vous, Alexis Aginsa, à des rassemblements. On a le sentiment que tout le monde forcément a voulu y apporter sa pierre et n'a pas voulu rester chez lui quand on est une grande équipe de basket ou autre d'ailleurs, mais vous en particulier.
Oui, j'ai participé à un rassemblement avec des personnes un peu plus haut placées de la ville, justement pour savoir avec pas mal de pasteurs, des trucs comme ça de la ville autour de chez moi. Et puis voilà, pour justement parler, de savoir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire et surtout comment protester cette injustice.
Et puis, quelle est votre responsabilité aussi, au fond, Alexis Aginsa, parce que vous avez tellement de jeunes gens qui vous regardent, vous représentez tellement pour des milliers de jeunes gens que ce que vous faites, votre attitude, ce que vous dites dans ces moments-là, peut avoir une résonance extrêmement importante.
Oui, c'est exactement pour ça. Je pense que chaque personne sportive a le devoir d'utiliser leur plateforme je dirais d'Instagram, de Twitter et autres, justement pour informer les jeunes de ce qui se passe et leur dire que voilà, il y en a assez de cette injustice qui se passe au niveau de la police, au niveau de l'État, et que voilà, c'est le moment de bouger, quoi.
Et est-ce que vous diriez, après je vous laisse à Charlotte, je vous promets, est-ce que vous diriez que, et notamment auprès de vos collègues américains, il y a vraiment un avant et un après, y compris dans les prises de position que peuvent prendre les sportifs dans la société américaine aujourd'hui?
Oui, je dirais tout simplement que le avant, il y avait pas mal d'injustices et le fait que les sportifs continuent à parler de ce problème, de le mettre en avant. L'après, ce serait vraiment que les choses bougent et que si les sportifs sont la solution pour pouvoir être entre la communauté et les personnes un peu plus haut placées pour balancer les messages qui devraient arriver pour essayer de toucher la jeunesse, je pense que c'est le moyen de faire, c'est le moyen de pouvoir parler aux jeunes et leur montrer la bonne voie. Parce que voilà, l'injustice se passe un peu partout aux États-Unis, mais elle se passe aussi un peu en France et dans les autres pays. Donc c'est sûr qu'il y a des choses à faire, quoi.
Et c'est ce qu'on voit partout dans les rues en ce moment. Je vous remercie mille fois, Alexis Agensa. Vraiment, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Sinon, c'est promis, je vous libère. Nicolas Martin Bretot, je rappelle que vous êtes historien, vous êtes spécialisé dans l'histoire sociale et notamment du sport. C'est vrai que, je rebondis sur ce que nous disait Alexis Agensa, jusqu'à très récemment, au fond, à avoir un vrai acte militant, il y avait un homme dont on a parlé ces trois dernières années, c'est Colin Kaepernick qui est le footballeur, mais au fond il était quasiment seul ces dernières années, c'est lui qui a mis le genou à terre. Il est plus seul aujourd'hui, ce Colin Kaepernick.
Oui, je crois que vous avez raison d'insister sur cette figure de Colin Kaepernick, qui était donc qui est toujours un footballeur professionnel, donc qui jouait en NFL et qui en 2016 a créé la polémique en mettant un genou à terre pendant l'hymne national américain qui est joué traditionnellement au début des matchs de football. Et il a fait ce geste afin de protester, de revendiquer la justice raciale aux États-Unis et en particulier de s'élever contre les violences policières qui touchent de façon disproportionnée la communauté noire américaine.
Et je dis qu'il était seul
Il était seul. Disons que c'est la figure qui a émergé d'un mouvement qui était quand même un peu plus large. Il a été le premier, donc à tout seigneur, tout honneur, reconnaissons son courage, puisqu'il mettait sur la table, entre guillemets, sa carrière. Et effectivement, sa carrière a été torpillée par la NFL. Il est aujourd'hui sans emploi, il n'est plus footballeur actif. Mais d'autres sportifs l'ont épaulé, y compris à l'intérieur de son équipe de San Francisco, les 49ers. Il a eu un certain nombre de coéquipiers qui l'ont soutenu et qui ont aussi fait ce geste. Et puis ce mouvement s'est propagé, entre guillemets, à d'autres équipes, à d'autres joueurs de la NFL et à d'autres sports professionnels et amateurs, il faut le rappeler, à l'intérieur des États-Unis.
Et ce qui change, ça avait commencé quand même avec Kaepernick, c'est que les sponsors suivent. Ça veut dire qu'il y a aussi l'idée que, oui, on peut accepter que ces sportifs aient un vrai rôle politique et qu'ils le clament. Je vous pose la question parce que ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient très bien de cette période des années 80 où un Michael Jordan, par exemple, on lui demandait surtout de ne pas prendre position, voire quasiment de se taire. On lui a même reproché ce silence pendant beaucoup d'années, pendant ses années d'activité en tout cas.
Absolument. Quelqu'un comme Michael Jordan, qui reste sans aucun doute le sportif noir américain le plus connu au monde, avait été très sévèrement critiqué dans les années 80 et 90 pour sa discrétion sur les questions raciales, se présentant lui-même comme d'abord un basketteur et étant caricaturé comme un businessman. Notamment par la communauté noire américaine qui lui reprochait de ne pas prendre position politique, de jouer son rôle de leader de la communauté africaine-américaine, en particulier sur les questions raciales. Et c'est beaucoup lié, me semble-t-il, au contexte politique historique de cette période qui voyait le retour en force des conservateurs au pouvoir. C'est le retour de la droite américaine au pouvoir, avec la figure évidemment de Ronald Reagan, qui rendait ce genre de prise de position extrêmement difficile. Donc vous avez raison de dire que, voilà, à 30 ans d'écart, la situation actuelle est bien différente et montre, disons, le basculement ou disons le déplacement du champ politique et idéologique américain concernant notamment les questions raciales.
Parce que quand on vous lit, c'est passionnant, on a l'impression qu'il y a eu des moments de pic et puis il y a eu des trous noirs et puis à nouveau des moments de pic. Je pense par exemple, vous en parlez, je pense à un Jackie Robinson au début des années 60, c'est le premier noir à jouer au baseball chez les Blancs, qui s'opposait même à Malcolm X. À l'époque, lui pensait que jouer en ligue de baseball, c'était prendre sa juste place au fond dans la société américaine. Il y a eu le tournant de Mohamed Ali qui pour le coup est aux côtés de Malcolm X. Il y a ces figures qui sont des vraies figures tutélaires des années 60 qui ont été extrêmement importantes. Et puis après, une sorte de blanc, en fait.
Oui, le sport aux États-Unis a joué un rôle extrêmement important pour la communauté noire parce que c'est d'abord une activité corporelle. Et les Noirs, ou disons le racisme anti-noir, est d'abord et avant tout dirigé contre des corps considérés comme inférieurs et stigmatisés comme inférieurs. Et donc, Le sport a joué un rôle, notamment aussi parce que c'est une activité extrêmement médiatisée, y compris des débuts du XXe siècle. Et donc, un certain nombre de figures, comme Jackie Robinson, vous l'avez dit, qui est le premier joueur noir à jouer dans une ligue professionnelle sportive blanche, donc en ligue de baseball en 1947, est considéré comme un héros de toute la communauté parce qu'il est le noir américain le plus connu à l'époque, à une époque où quelqu'un comme Martin Luther King est encore un enfant, si vous voulez. Et donc, le sport, à l'époque, est considéré comme un vecteur de démocratisation de la société américaine.
Alors, je l'ai mis, il y a une mauvaise période, effectivement, il y a le moment Mohamed Ali, mais là aussi, c'est la même chose, en fait. Mohamed Ali était, au fond, le noir le plus connu des blancs. Mais ce qui est assez édifiant, c'est qu'il ne renverse pas les préjugés raciaux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on les voit, on les entend, il y a des prises de position, mais quand Mohamed Ali descend du ring, il est quand même obligé de descendre du trottoir quand un blanc passe devant lui.
Absolument. C'est l'un des événements d'ailleurs qui, d'après Mohamed Ali lui-même, a enclenché sa transformation, disons sa conversion à la fois religieuse, puisqu'il se convertit à l'islam, et aussi conversion politique, puisqu'il se déplace vers le Black Power dans les années 1960. Mohamed Ali, Cassius Clay, c'est son nom de baptême, son nom de naissance, Cassius Clay, est champion olympique, il devient champion du monde, mais, dit-il, pour l'immense majorité des Blancs dans les années 1960, il ne reste qu'un nègre, entre guillemets, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle c'est une période qui est intéressante parce qu'elle voit la critique de cette idée selon laquelle le sport pourrait démocratiser la société américaine. En réalité, le sport n'est qu'une facette ou qu'un secteur de la société englobante et connaît les mêmes formes de racisme que l'on retrouve ailleurs dans le système scolaire ou dans le système de santé, etc. Mais Mohamed Ali reste aujourd'hui encore la grande figure politique du sport noir américain.
Et même chose d'ailleurs, évidemment, il y a la fameuse image iconique des JO de Mexico, de John Carlos et de Tommy Smith qui ont le poing levé, on est dans l'année 68, et là encore, il y a l'image iconique, il y a ce moment particulier, mais ils vont le payer extrêmement cher, ces deux-là, en fait, ce geste-là, et là encore, ils ne renversent pas la table des préjugés raciaux.
Absolument. Vous avez raison, je pense, de parler d'image iconique. C'est peut-être l'image la plus connue du mouvement pour les droits civiques dans le monde. C'est ce qui est intéressant. Si on vous demande de penser peut-être à une image de Martin Luther King, ça serait peut-être pas si simple d'en trouver une dans sa tête. Par contre, tout le monde connaît cette image absolument extraordinaire de deux athlètes noirs américains, tête baissée et poing ganté de noir levé. Je rappelle aussi que sur la deuxième marche de ce podium, il y avait un homme blanc, un sprinteur australien, la tête baissée, qui participe aussi et qui montre son soutien.
Et qui l'a payé tout autant d'ailleurs.
Et qui l'a payé tout autant, absolument. Smith et Carlos, pour ce geste, qui est considéré par l'immense majorité des Américains à l'époque comme un signe de trahison à la patrie, signe de trahison au drapeau, à l'hymne national, à la nation américaine, le paieront très cher, le paieront de leur carrière, bien que aujourd'hui et rétrospectivement, ils soient considérés comme des héros. Vous avez des statues à la gloire de Smith et Carlos dans leur geste, immortalisé, si vous voulez, pour l'éternité.
Et vous parlez de trahison, c'est comme ça qu'ils ont été effectivement reçus et accueillis. Ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés parfois au sujet de Colin Kaepernick dont on parlait. Est-ce que vous, l'historien, vous dites qu'il faut faire se rejoindre ces deux gestes-là, les poings levés à Mexico et le genou à terre de Colin Kaepernick?
Absolument. Moi, je pense que la première chose à voir dans ces deux gestes, c'est d'abord leur grande dignité. Ce sont des gestes qui sont absolument pas des gestes de traître ou d'émeutier, si vous voulez. Il y a dans ces gestes quelque chose de l'ordre de la prière, du transcendant, du recueillement, et je dirais donc de dignité. Les poings levés, la tête baissée, c'est quelque chose de très calme, de très solennel, de la même façon que mettre un genou à terre pendant l'hymne national, c'est d'abord un signe de respect, me semble-t-il. Et comme l'a dit Kaepernick, c'était pour aider la nation américaine à devenir meilleure. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Martin Luther King a lui-même fait ce geste dans les années 60, mettre un genou à terre et prier dans la rue collectivement. Donc ce sont deux gestes qui sont assez comparables, évidemment, par-delà les contextes historiques très différents, parce qu'ils portent le même message de fond. Les Noirs ont aussi une humanité et une dignité et se battront pour la faire respecter de tous.
Nicolas Martin-Breton, je parlais tout à l'heure d'un passage de trou noir quand on parlait de Michael Jordan, et c'est vrai que il y a eu ça, il y a eu Tiger Woods aussi qui n'a jamais rien dit, il y a eu O.J. Simpson qui s'est souvenu qu'il était noir lorsqu'il a fallu sauver sa peau au tribunal, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le sportif redevient objet politique et qu'on peut à nouveau parler politique et montrer politique sur les terrains de sport?
Je pense que vous soulevez un point très intéressant ici. On a tendance, je pense, à beaucoup insister sur les figures individuelles. Par exemple, Colin Kaepernick. Par exemple, Mohamed Ali. Mais il ne faut pas oublier que si ces deux personnages historiques ont pu prendre la parole de la façon dont ils l'ont prise, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils étaient portés par un mouvement social de millions de personnes. Et j'aurais tendance à mettre en avant d'abord les anonymes dans la rue qui forment ce mouvement social et qui permettent à d'autres, plus exposés médiatiquement, de prendre la parole pour porter leur voix. Si quelqu'un comme Michael Jordan ou Tiger Woods n'ont pas pu ou n'ont pas voulu le faire, c'est aussi parce qu'ils ont vécu leur vie de sportifs professionnels dans des périodes, dans des contextes historiques où cette prise de parole était beaucoup plus difficile, autrement dit, dans des contextes historiques dominés par les conservateurs américains.
On a même parlé d'un rejet de la culture noire. Effectivement, est-ce que c'était un rejet qui était là sciemment ou est-ce qu'ils étaient aussi bloqués dans cette posture-là? Est-ce que au fond, puisque effectivement ce sont les mouvements sociaux qui accompagnent tout ça, est-ce que Black Power des années 60-70 et Black Lives Matter sont des mouvements miroirs, sont des mouvements frères selon vous?
Je crois que les militants et les militantes de Black Lives Matter Today, aujourd'hui, excusez-moi, ne cachent pas leur lien de filiation à la fois politique, intellectuelle avec les militants du Black Power dans les années 60 et 70. D'ailleurs, un certain nombre de plateformes, comme on dit en anglais, donc de programmes de Black Lives Matter, s'inspirent directement du fameux programme en 10 points du parti Black Panther en 1966. Ce sont à peu près les mêmes genres de revendications, en particulier concernant la violence policière, qui sont aujourd'hui portées en avant, mais pas simplement la violence policière, c'est-à-dire une réforme, une révolution globale de la société américaine, en insistant aujourd'hui sur un concept très particulier, celui de racisme systémique, c'est-à-dire la volonté de réformer, ou plutôt de transformer de façon révolutionnaire l'ensemble des structures de la société américaine que l'on considère comme racistes.
Et alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que quand ces sportifs-là se mouillent et qu'on est dans ce mouvement qui est tellement global, ça veut dire que les grands organismes, la NBA, la NFL, tout ça est obligé aussi de suivre et d'encourager même ce qu'on avait probablement rarement vu avant, si.
Non, vous avez raison de le dire comme ça. Il faut noter par exemple que la Ligue professionnelle de basketball, la NBA, est considérée comme la ligue professionnelle sportive la plus progressiste aux États-Unis, c'est-à-dire dont les joueurs, dont les spectateurs et téléspectateurs sont les plus susceptibles de voter démocrate. De fait, la NBA a pris des positions assez claires, tranché sans équivoque sur les violences policières, sur la nécessité de travailler en profondeur la société américaine pour la réformer en vue de la justice raciale. Mais d'autres ligues sportives sont plus marquées, disons, à droite. C'est le cas notamment de la Ligue professionnelle de football, qui néanmoins, et c'est là que c'est important, c'est là qu'on voit que les mouvements sociaux portés par des millions d'anonymes porte des fruits concrets, la NFL est obligée aujourd'hui de dire que finalement, quelqu'un comme Colin Kaepernick avait raison et que ce qu'il fait, c'est magnifique. Évidemment, ce genre de position est taxé immédiatement d'hypocrisie puisqu'il y a quelques années, même quelques mois, c'était la position exactement inverse qui avait tendance à défendre la NFL. La plupart des patrons d'équipes professionnelles en NFL, etc.
Ça veut dire que LeBron James, qui fait du basket, peut, lui, avoir une parole politique, mais que Kaepernick, qui fait du foot, pas encore. En tout cas, il n'a pas retrouvé du boulot, visiblement, quand je vous entends, Kaepernick.
Alors, Kaepernick n'a pas retrouvé du boulot. Disons que s'est ouverte à lui une nouvelle carrière, une carrière de militant pour les droits civiques. Sans doute n'échangerait-il pas ce nouveau rôle avec son ancien rôle de quarterback. Néanmoins, il est clair que la prise de parole publique aux États-Unis sur ces questions, notamment quand on est une personne noire, il faut bien le noter, il n'y a pas une égalité de la prise de parole sur ces questions entre noirs et blancs, est en partie liée est en partie liée à votre clientèle, c'est-à-dire devant qui faites-vous votre métier.
Et bien là.
Et de ce point de vue, il est plus difficile de prendre parole en NFL qu'en NBA.
En tout cas, pour l'instant, ils font leur métier devant le monde entier. Nicolas Martin-Breteau, je vous remercie beaucoup, vraiment. Je rappelle que apparaître donc dans les jours qui viennent ce livre que vous signez qui s'appelle Corps politique et c'est aux éditions de l'EHESS. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Mexique, désormais le plus touché par le Covid en Amérique latine. Caroline Gillet nous a confié le journal sonore d'une jeune Polonaise qui est à Cracovie, elle s'appelle Véro. Sous les radars et Sarah Guibaudeau avec l'actualité hors Covid qui vous a échappé. Et puis le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Et si l'économie mondiale repartait plus vite que prévu, se demande Jean-Marc. Ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini. Eh bien, il reste aux États-Unis. Tiens, voici Mark Lenegan, Bleed All Over.
Baby, baby, don't you say it's over, yeah. I never wanted to, baby, 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 I'ma bleed all over, yeah. That's what it's coming to. I want it, I want it, I want it.
Lanigan sur France Inter, ça s'appelle Bleed All Over. Et le bruit du monde ce soir est au Mexique, l'Amérique latine est le principal foyer du Covid-19 désormais. Près de 14 000 morts et 120 000 cas de contagion là où nous sommes. Des chiffres qui sont bien en deçà de la réalité, de l'aveu des autorités elles-mêmes. Et pourtant, ce pays, le Mexique, entame un déconfinement graduel. Bonsoir Emmanuel Steele.
Bonsoir Fabienne.
Emmanuel, les Mexicains ne savent plus vraiment à quoi s'en tenir, c'est l'idée?
Oui, il y a un certain désarroi. Le président répète souvent que l'épidémie est domptée, que les gens peuvent sortir. Mais ces messages sont suivis immédiatement d'un coup de massue de la part du ministère de la Santé qui alerte de la gravité de la situation actuelle. Alors le Mexique a opté pour un confinement volontaire en mars. Mais au bout de 3 mois, López Obrador affirme que c'est trop long. Et lui-même, il a repris la semaine dernière ses tournées à travers le pays. Alors on assiste à une réactivation de l'économie. Le gouvernement a appelé ça la nouvelle normalité. Et pourtant, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, la contagion devrait encore s'intensifier pendant plus d'un mois selon les prévisions.
Et c'est vrai qu'il y a un chiffre, hein, Emmanuel, le Mexique a annoncé jusqu'à 1000 nouveaux morts en une seule journée.
Oui, mais les autorités elles-mêmes affirment qu'il ne faut pas se fier à ces chiffres, qu'ils reflètent une actualisation tardive des décès, mais en même temps, le gouvernement reconnaît que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Donc ce cafouillage, ce flou qui règne autour des chiffres, renvoie une image partielle de la situation, ce qui explique le relâchement des derniers jours. Il y a beaucoup plus de mouvements actuellement dans les rues de Mexico. Un grand nombre de travailleurs, de commerçants ont repris du service. En fait, les Mexicains, eh bien, ne sont pas alarmés parce que les autorités hôpitaux résistent, même si dans la capitale, ils se maintiennent au bord de la saturation depuis plusieurs semaines déjà. La gravité s'étale dans le temps, mais il y a toute une face cachée de la maladie. Beaucoup de malades ne vont pas se faire soigner à l'hôpital. Mmh. Le scepticisme est extrêmement étendu. On entend encore beaucoup de Mexicains douter de l'existence même du coronavirus.
Et alors, il y a autre chose chez vous, Emmanuel. Les médecins mexicains ont constaté que les jeunes et les patients d'âge moyen étaient aussi durement touchés par le coronavirus. On sait à quoi c'est dû ou pas ?
Oui, la jeunesse des Mexicains, c'était censé être leur atout au départ, avec une moyenne d'âge de 29 ans. Mais cet avantage est pulvérisé par l'obésité, l'hypertension. Du coup, on constate que les 45-60 ans sont beaucoup plus gravement atteints que dans d'autres pays. Un médecin me disait récemment, 80% de mes patients qui sont dans un état grave souffrent d'obésité ou d'excès de poids. C'est un phénomène incontournable. Les trois quarts de la population mexicaine sont concernés. C'est le deuxième pays au monde en termes d'obésité. Et donc, par ricochet, ce nouveau virus a provoqué un débat sur la malbouffe dans l'alimentation des Mexicains.
Emmanuel Stills à Mexico avec nous. Merci beaucoup Emmanuel. Et c'est en Pologne que je vous emmène maintenant, à Cracovie. C'est là que nous retrouvons le journal sonore du jour. C'est celui de Véro. Elle a 29 ans. Véro, avec des amis, elle a créé un café librairie coopérative. C'était il y a quelques années, pour proposer des alternatives aux idées du gouvernement en place. Vous savez que la Pologne, depuis 2015, est dirigée par le parti ultra-conservateur Droit et Justice. Les élections présidentielles devaient avoir lieu le 10 mai. Elles ont été repoussées au 28 juin à cause du Covid. Voilà les premières paroles envoyées par Véro à Caroline Gillet. Et ces paroles datent du début du mois de mai.
Salut, bonjour. Moi, c'est Véronica, mais on m'appelle Véro. Je voulais vous emmener faire une balade avec moi. Une balade exceptionnelle pour quelqu'un qui habite à Cracovie, parce que d'habitude, c'est un endroit envahi par les touristes. Et je voulais vous faire écouter le silence au château de Wawel, l'icône de notre ville. Mais il y a des touristes. Mais bon, faut dire que c'est quand même beaucoup plus calme que normalement. Bon, j'enregistre encore un petit morceau. Je ne sais pas si ça va faire l'effet, mais là, je suis dans la vieille partie du château, dans le déambulatoire. Et là, c'est le silence parfait. Les cloches, un pigeon. On est bien à Cracovie. Coucou, cher journal. Il y a une récolte d'argent pour le système de santé en Pologne, pour les médecins, pour les hôpitaux qui n'ont pas assez d'argent pour acheter tout dont ils ont besoin maintenant pour lutter le corona. Et donc, les milieux des musiciens rappeurs ont commencé un challenge sur YouTube, que vous pouvez observer sous le hashtag Hot 16 Challenge 2. Après les rappeurs, c'est aussi d'autres musiciens qui se sont lancés pour enregistrer de courts morceaux. Et donc hier, il y a une autre personne qui a enregistré son propre morceau et je vous laisse écouter. Voilà.
To jest maj, nie pachnie saskakenta, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.
C'est le président de notre république polonaise, Andrzej Duda. La personne qui est responsable partiellement pour ce système de la santé publique, au lieu de faire quoi que ce soit pour maintenant porter secours au système qui est en très mauvaise situation, au lieu de faire quelque chose, eh ben, il enregistre ce morceau de rap et il le met sur YouTube. Moi, j'ai juste l'impression qu'il essaye vraiment, vraiment d'être populaire et de plaire aux gens. Et à chaque fois, il choisit la mauvaise méthode possible.
Hot 16 Challenge 2 zainicjowanej przez polskich raperów na rzecz walki z koronawirusem. Bardzo dziękuję również za pomoc w przygotowaniu tego utworu LFVMR.
Merci à Véro qu'on retrouve demain dans les manifestations Black Lives Matter de Cracovie, justement. Patti Smith, Because the Night sur Inter.
Try and understand. Does desires, hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Évidemment, Because the Night sur France Inter.
Le 18-20.
Et quand l'actualité internationale passe sous les radars, ce qui vous a peut-être échappé n'a pas échappé à Sarah Guibaudot. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
L'épidémie de coronavirus, Sarah, fait passer au second plan deux affaires judiciaires retentissantes en République démocratique du Congo et en Espagne.
À Kinshasa, c'est un procès anticorruption inédit qui est suivi en masse par les Congolais. L'audience a repris la semaine dernière. Elle est retransmise en direct à la télévision. Malheureusement, le son est assez mauvais.
Ici. Je disais, monsieur le président...
Je vais vous donner la parole. Suivez.
Bien, merci, monsieur le président.
Je vais vous donner la parole,
monsieur le président.
Soyez tranquille.
Tranquille, le nouveau président, pourtant son prédécesseur, est mort de manière assez soudaine le 26 mai. Après avoir été pris de malaise, on attend toujours les résultats de l'autopsie du juge qui pourrait couper court ou pas aux rumeurs d'empoisonnement. Ce procès, c'est celui de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il est accusé d'avoir détourné 50 millions de dollars de l'argent public qui devait servir à construire 1500 maisons en préfabriqué. C'était l'une des mesures du programme des 100 jours du nouveau gouvernement investi en janvier 2019. Première transition pacifique du pouvoir. Le principal prévenu met en cause le chef de l'État. Le procès reprendra jeudi avec les plaidoiries. À Madrid, l'affaire qui aurait fait la une de tous les journaux ces dernières semaines s'il n'y avait pas le Covid, ce sont ses soupçons de corruption autour de l'ancien roi Juan Carlos qui a abdiqué en 2014. La Cour suprême espagnole a décidé hier d'ouvrir une enquête. Le quotidien suisse La Tribune de Genève a révélé en mars que Juan Carlos aurait reçu en 2008 100 millions de dollars du roi d'Arabie Saoudite. Une commission sur le marché du train à grande vitesse de la Mecque confiée à un consortium espagnol. Des accusations suffisamment sérieuses pour que son fils, l'actuel Felipe VI, annonce en plein déconfinement qu'il renonçait à l'héritage de son père.
À Yamato, c'est près de Yokohama au Japon, on ne pourra bientôt plus téléphoner en marchant.
Ces images captées par l'AFP ne nous sont pas totalement étrangères. On voit des passants envoyer des messages tout en traversant la rue et le maire Satoru Oki qui s'empare du sujet. Beaucoup de gens pensent « Ah, c'est dangereux quand ils voient les autres marcher en regardant un téléphone. Si la municipalité ne faisait rien à ce sujet, ce serait vraiment un problème. Je veux inciter les gens à ne plus utiliser leur téléphone en marchant. » Le conseil municipal de Yamato votera à la fin du mois.
Et maintenant, Sarah, cette question posée par le quotidien britannique Le Guardian. Les robots font-ils de bons journalistes ?
Alors, il y a une semaine, Le Guardian révélait que le site de Microsoft MSN.com allait licencier une cinquantaine de prestataires, dont la moitié au Royaume-Uni, pour les remplacer par un programme d'intelligence artificielle. Le site MSN.com est consulté par des centaines de millions d'internautes. Il ne fait pas de reportage, pas d'enquête. Il compile des articles écrits par des médias comme Le Guardian, qui a donc surveillé de près l'évolution du site. Et bam, hier, un premier bug. Vous écoutez le groupe anglais Little Mix. L'une des chanteuses, Jade Thirlwall, a récemment témoigné du racisme qu'elle avait subi dans sa jeunesse. Et MSN a illustré son propos avec la photo d'une autre musicienne du groupe, Liane Pinnock, tout aussi jolie et métissée. Mais vous vous êtes trompée de métisse, s'est insurgée Jade Thirlwall sur Instagram. La chanteuse en a profité pour fustiger le modèle MSN qui ne fait que copier les articles des vrais médias.
Sarah Guibaudot, c'est tous les mardis dans Un jour dans le monde, sous les radars. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est Jean-Marc Four et bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
Jean-Marc, après le tourisme et l'automobile, l'aéronautique, le gouvernement a présenté ce matin son plan de soutien à cette filière où 100 000 emplois sont menacés. Et dans cette phase où tout le monde redoute un grand plongeon de l'économie, vous jouez les Cassandre optimistes. Et si la catastrophe n'avait pas lieu, si l'économie mondiale repartait, c'est votre monde d'après.
Oui, je vous l'accorde, c'est contre-intuitif. Les prévisions de la Banque mondiale publiées hier annoncent une chute sans précédent depuis 75 ans, 5% de récession, des dizaines de millions de personnes plongées dans la pauvreté et un recul du PIB très élevé dans certains pays, moins 10% en France. Au moment où le chômage menace, ça peut donc paraître indécent de dire que tout n'est pas si noir. Et pourtant, le fait est là, tout n'est pas si noir, en tout cas dans les pays européens. D'abord, la mise sous perfusion de l'économie a fonctionné, il faut bien le dire. Maintien des emplois, subventions publiques pour les salaires par le chômage partiel, l'État a payé, le filet de protection tient, en s'endettant massivement, c'est vrai, mais aujourd'hui, le coût de la dette est faible, voire nul pour une institution comme l'Union européenne qui possède un crédit assez fort. Et pour la deuxième phase, la relance, les annonces relèvent du traitement de cheval, plus de 1500 milliards au niveau européen, on le rappelle, sans compter les plans de chaque pays. Les volumes sont là. L'objectif, c'est de relancer la machine progressivement pour que l'offre ait le temps de répondre à la demande des consommateurs, sinon il y aura inflation. En termes macroéconomiques, ça peut marcher.
Voilà, hop, voilà, avec le micro, c'est mieux. Jean-Marc, ce qui nous intéresse, c'est la microéconomie, donc c'est l'emploi, le salaire de chacun.
Oui, alors là aussi, en fait, même si le verdict est plus compliqué, il y a des raisons d'espérer. Le fait est que ça repart. En France ou en Allemagne, l'activité du mois de mai est déjà très supérieure à celle du mois d'avril. Dans le bâtiment, dans l'automobile, dans les services aux personnes, ça repart. La consommation d'électricité redémarre. La saison touristique estivale pourrait être à peu près préservée. Au Japon, les perspectives de redémarrage sont assez rapides. Et selon une enquête de Manpower dévoilée par les Échos aujourd'hui, les employeurs dans le monde sont relativement confiants sur une relance des embauches d'ici 12 mois. Et là, on marque une pause. 12 mois. C'est là qu'on touche à la question suivante. La reprise, oui, mais quand ? Un bon indicateur, c'est ce qui se passe dans l'usine du monde. J'ai nommé la Chine. Le redémarrage est lent, la consommation n'a pas repris comme avant, les salaires sont en panne, les commandes tardent à venir. Ça s'appelle une courbe en U, pas en V. Vous voyez, on reste dans le creux un certain temps, comme dans la partie basse d'un U, sans rebondir aussitôt, rapidement, comme dans un V. Sans compter que certains, quand même, pourraient rester en bas du U, une partie de l'industrie, certains centres commerciaux, le business des croisières, etc.
Alors, il y a le quand, Jean-Marc aussi, et puis il y a aussi le comment. Repartir, oui, mais comment ?
Oui, ça, c'est la question désormais rituelle. Est-ce qu'on repart comme avant, sur le même modèle ? En fait, il y a un lien avec la question quand. Pourquoi ? Parce que le grand argument en faveur du retour au monde d'avant, c'est qu'il faut aller vite. pour sauver la croissance, les emplois, etc. Donc repartons sur les bases qu'on connaît. Par exemple, le beau discours sur les relocalisations au nom de la souveraineté économique, il va avoir du mal à se traduire dans les faits. C'est pas demain la veille que les médicaments vont cesser d'être fabriqués en Inde ou en Chine et les textiles au Bangladesh ou au Vietnam. Le problème du vite, c'est qu'il est à courte vue. Je m'explique. Si l'économie du monde d'après doit enfin intégrer l'impératif écologique, il faut un temps d'adaptation pour effectuer les transitions énergétiques nécessaires sur les transports, l'automobile, l'aéronautique, le bâtiment, l'agriculture. Si à l'inverse, on n'intègre pas cet impératif parce qu'on veut redémarrer vite sans réfléchir, on sauvera sans doute des emplois à très court terme, mais on fonce dans le mur à moyen terme, y compris en termes d'emploi. Vite, pour un bénéfice immédiat, ou peut-être un peu moins vite pour éviter la cata. Faites votre choix.
Le monde d'après, signé Jean-Marc Fourcet, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc.